C'est le moment de retrouver votre rendez-vous, mon corps, ma vie, avec Hichem Benabastarji, gynécologue obstétricien à Casablanca. Il est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour, toujours un plaisir de vous écouter.
Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la question des fibromes utérins. Et avant de vous donner la parole, Asma, j'invite bien sûr les auditeurs à réagir et à poser leurs questions sur notre application Lux Radio. Hichem Benabastarji, bonjour.
Bonjour.
J'espère que c'est la forme aujourd'hui.
Alhamdoulilah, comme toujours.
Très bien. Alors, fibrome utérin, donc c'est une tumeur non cancéreuse, la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer. Est-ce qu'on dispose de chiffres sur leur prévalence exacte dans notre pays? Et puis, qu'est-ce qu'un fibrome?
Alors, un fibrome, comme vous l'avez dit, c'est une tumeur bénigne. Une tumeur, c'est une prolifération de cellules. C'est-à-dire des cellules qui se multiplient, on ne sait pas pourquoi, sauf que ces cellules sont bénignes, c'est-à-dire elles vont s'arrêter à certains moments, elles vont être bien limitées, et donc à la différence du cancer qui est une cellule parasite et qui va partout, le fibrome, donc c'est une tumeur bénigne qui va grandir petit à petit et donner des symptômes ou tout simplement rester asymptomatique. On n'a pas vraiment de fréquence parce que, je veux dire, tout le monde ne consulte pas forcément pour les... Mais on les estime à environ 20% de la population.
D'accord.
Et c'est aussi, alors, par exemple, chez certaines races, par exemple dans la race noire, il y a plus de fibromes, ça touche jusqu'à 30-40% de la population. C'est peut-être un facteur génétique.
C'est possible. Très bien. Hichem Benabastarji, avant de s'attaquer au type de fibrome utérin qui existe, une question que j'ai beaucoup vu passer, est-ce qu'un fibrome augmente le risque de cancer de l'endomètre?
Non, du tout. Le fibrome, il faut être clair. Il n'y a pas de risque de cancer avec un fibrome. Alors, on, sur des séries autopsiques, c'est-à-dire sur des morts sur lesquelles on fait des analyses, on a trouvé sur 1000 fibromes, il y en a environ 2,5. Donc 2,5 pour 1000, ce qu'on appelle de cancer, de sarcome de l'utérus. D'accord? C'est très très rare. Et ça serait peut-être pas des fibromes qui ont dégénéré, c'est tout simplement un sarcome, c'est-à-dire un cancer du muscle utérin, pas de l'endomètre, pas de l'intérieur de l'utérus. Donc on dit, tous les gynécologues et tous les scientifiques disent, il n'y a pas de relation entre fibrome et sarcome.
D'accord? Très bien, c'est clair.
Maintenant, le fibrome, on n'opère pas un fibrome parce qu'on a peur d'un sarcome. On opère un fibrome quand il fait mal, quand il est symptomatique, pardon, quand il donne des symptômes, d'accord? Sinon, on n'a pas forcément besoin d'opérer ou de surveiller un fibrome. D'ailleurs, quand vous posez la question par rapport à un sarcome, la grande différence, c'est qu'un sarcome, c'est un cancer qui va vite évoluer. Sur 3 mois, 4 mois, vous allez voir cette petite masse qui, au début, vous disiez, bon, c'est rien, mais elle va grandir. Un fibrome, il grandit pas de 3 cm ou de 4 cm en 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce que le sarcome la perd. Donc, on peut toujours rechanger le diagnostic. D'accord?
Mais il n'en demeure pas moins que l'évolution naturelle de la plupart des fibromes utérins est quand même l'augmentation de volume. Hein? Qu'est-ce qui va favoriser, justement, Hichem Benabastarji, cette augmentation de volume?
On ne sait pas vraiment. On pense que ce sont les hormones féminines, les œstrogènes et la progestérone, mais on ne sait pas vraiment pourquoi cette femme va faire un fibrome qui fait 1 cm et pourquoi cette autre femme va faire un fibrome qui fait 10 cm. On ne connaît pas vraiment la cause. Maintenant, je vous dis, là, on est à traiter et on peut voir l'évolution. Une femme qui fait plusieurs fibromes à l'âge de 30 ans, bien sûr, on va l'opérer éventuellement, mais on est peut-être douteux que peut-être qu'elle va récidiver dans 5 à 10 ans. C'est possible. Une femme qui fait un fibrome asymptomatique, je vous dis, à 35-40 ans, il y en a un petit de 1 cm, je vais le négliger. En sachant que les fibromes à la ménopause, eh ben, ils disparaissent spontanément. C'est-à-dire, comme il n'y a plus ces fluctuations hormonales, eh ben, les fibromes vont guérir, vont diminuer de taille à la ménopause. Mais des fois, on ne peut pas attendre jusqu'à la ménopause.
Très bien. Alors, quels sont maintenant les types de fibromes utérins qui existent et qu'on connaît?
En fait, le fibrome, donc, c'est une tumeur aux dépens du muscle utérin, de la cellule musculaire, l'âme, je dirais, de l'utérus. Et donc, elle va se développer à différents endroits. Et en fonction de où est-ce qu'elle est, elle va donner des signes. Par exemple, on les classe en 7 selon une classification scientifique. Les types 0, c'est ceux qui sont à l'intérieur de la cavité totalement. Les types 1, c'est ceux qui sont partiellement dans la cavité. Type 2, il commence à, il est très peu, la portion minime est dans la cavité. Les 3, 4, 5, ils sont dans le muscle utérin. Et les 6, ils sont à l'extérieur, dans le muscle, mais ils sortent à l'extérieur. En fonction de cette localisation, on va avoir des symptômes. C'est-à-dire que, par exemple, un fibrome type 0 à l'intérieur de la cavité, même s'il est petit, il fait 1 cm, il peut donner beaucoup de saignements, même s'il fait 1 cm, alors qu'on peut avoir un fibrome de type 6, c'est-à-dire qui grandit à l'extérieur de l'utérus, c'est-à-dire à l'intérieur du ventre, et bien même s'il fait 1 cm, et bien on ne le voit pas du tout, il est asymptomatique, et on ne va commencer à le sentir qu'à partir de 4, 5, 6 cm, où il va commencer à comprimer la vessie ou le rectum et donner des signes de pesanteur, de petite douleur. Et ce n'est que quand il est très gros, je vous dis 6, 7 cm, des fois 10 cm, que la femme va venir en disant « mais je sens une boule là dans en haut de mon pubis, c'est quoi ?» C'est très probablement, je vous dis, un fibrome. Donc la taille et les symptômes sont très variables en fonction de différentes femmes et en fonction des différentes localisations.
Très bien. Alors que faire justement en présence de ces symptômes que vous venez de citer à l'instant ?
Alors, comme j'ai dit, le fibrome n'est pas forcément opérable. On traite des. Alors, il n'y a pas de traitement des fibromes. Il y a clair. Soit on l'enlève, soit on le garde. Maintenant, donc toute la discussion avec votre gynécologue, c'est faut-il l'opérer ? Maintenant, si vous avez, je vous dis, des symptômes gênants, de vous faites beaucoup pipi parce que votre fibrome comprime la vessie, vous avez de la constipation parce que votre fibrome comprime le rectum, ou bien vous avez des problèmes d'infertilité lié au fibrome, où vous avez mal, de la douleur, parce que le fibrome fait un peu, commence à mourir et donne des douleurs importantes, à ce moment-là, il faut l'opérer. Mais sinon, un fibrome qui ne fait pas parler de lui, eh ben, qu'on découvre échographiquement de manière systématique, on n'a pas besoin de l'opérer.
Alors, Hichem Benahabès.
Les symptômes.
Oui, alors, c'était juste parce que tout à l'heure, vous utilisiez le mot de tumeur. Alors, c'est vrai que, dans l'esprit des femmes, c'est un mot qui fait peur. Mais finalement, si je vous comprends bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure.
Il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. C'est une tumeur bénigne, tout simplement. Ce n'est pas une tumeur maligne. Non, il faut rassurer les gens par rapport à ça. Et je vous dis, il faut peser le pour et le contre de l'intervention. Parce que toute intervention chirurgicale est à risque, même si ce risque est minime, mais est à risque. Et donc, je pèse qu'est-ce que je gagne à opérer par rapport à qu'est-ce que je perds si je n'opère pas.
Donc, si je comprends bien, il ne faut pas se jeter sur l'opération, l'intervention chirurgicale, c'est cela ?
Tout à fait, ça dépend, je vous dis, de quoi se plaint la dame. Alors, juste une chose, beaucoup de les fibromes, en fonction de leur localisation, quand je vous dis les fibromes, quand ils sont à l'intérieur de l'utérus, ils peuvent entraîner une augmentation de la taille de l'endomètre et donc ils peuvent faire saigner beaucoup. Et ces fibromes qui saignent beaucoup, on peut les traiter par des médicaments, ce qu'on appelle des progestatifs ou une pilule qui va diminuer le flux sanguin. Mais si on n'arrive pas à contrôler cela, et notamment pour les fibromes de type 0 ou de type 1, il vaut mieux les opérer parce que l'intervention se fait par en bas, par voie hystéroscopique, par le vagin et par l'utérus, donc sans cicatrice. Et là, même si le fibrome est petit, je vous dis à 1 cm, on peut indiquer une intervention chirurgicale parce que ça va bien régler le problème. Mais pour ce type de localisation particulière, d'accord ? Parce que les risques, là, je vous dis, il n'y a pas de cicatrice, il y a peu de risques, et surtout, il y a des conséquences. J'imagine que la dame avec un fibrome type 0, type 1, elle va beaucoup saigner. Ça peut entraîner aussi, des fois, ça peut être la cause d'une infertilité, je veux dire, une incapacité à tomber enceinte parce qu'elle a un fibrome, et donc, c'est une indication opératoire.
D'accord. Très bien. Alors, en lisant un petit peu les commentaires sur Internet, hein, des différentes expériences, j'ai eu l'impression que c'est la récidive, en fait, qui gêne beaucoup dans ce type de maladie, hein, de tumeur. Comment faire, justement, pour prévenir ce type de récidive ?
Comme je vous l'ai dit au début, on ne connaît pas pourquoi est-ce que certaines femmes font beaucoup de fibromes et des fibromes qui évoluent rapidement et d'autres non. D'accord ? Je parle toujours de femmes qui sont en âge de procréer. Donc, comme on ne sait pas, on ne peut que surveiller. Maintenant, si j'ai des petits fibromes, je vous dis, je ne vais pas me presser d'aller opérer. Par contre, si j'ai une femme de 30 ans avec des gros fibromes qui la gênent, eh ben, je vais aller, parce qu'il y a une gêne, je vais l'opérer en lui disant, écoutez, madame, je suis désolée, mais il se peut que vous récidiviez. Et je vous dis, ça se voit fréquemment chez la race noire. Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques, je vous dis qu'on ne connaît pas, mais qui favorisent, je veux dire, ce qu'on appelle l'index mitotique important de ce fibrome, c'est-à-dire ces cellules se multiplient rapidement. C'est comme ça. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de retarder au maximum l'intervention, la première intervention. Et donc, si la deuxième s'impose, on va la faire. Maintenant, oui.
Alors, juste une petite question pour rebondir à ce que vous dites. Est-ce que justement ce type d'opération, finalement, est-ce que c'est remboursé ou c'est considéré comme une opération dite de confort ?
Non, c'est remboursé, mais le problème, c'est que c'est très mal remboursé. D'accord. C'est-à-dire que quand on opère par voie haute, quand on opère par voie haute, c'est-à-dire comme une césarienne, je dirais, eh ben ça c'est remboursé, compté comme un cassant. Mais des fois, vous savez, le problème des remboursements, c'est qu'ils vous remboursent juste sur la pièce opératoire. Une hystéroscopie, ça devrait coûter. Le matériel est cher, il faut se former. Tout le monde, et ça devrait coûter plus cher que par une césarienne, tout simplement. Mais les mutuelles ne comprennent pas ça. Moi, je dirais, au final, il faut opérer, je le répète, il faut opérer quand les fibromes sont gênants.
Donc, Hicham El Abbès Tahagi, si je comprends vos propos, la prévention n'est pas possible pour le cas des fibromes utérins, c'est ça?
La prévention n'est pas possible du tout. Il n'y a pas quelque chose, comme on ne sait pas pourquoi ils surviennent, on ne peut pas vraiment les prévenir. Je voudrais parler juste, vous m'avez pas posé une question sur l'association fibromes et grossesse. On voit parfois des fibromes au cours de la grossesse. Et je voudrais rassurer les gens, parce que dans la plupart des cas, ces fibromes ne gênent pas au cours de la grossesse.
Oui, surtout que les symptômes que vous évoquiez tout à l'heure peuvent apparaître aussi pendant une grossesse normale.
Ils peuvent apparaître, mais ils peuvent ne pas apparaître. Donc, c'est wait and see, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Par contre, hors de question d'opérer un fibrome au cours d'une grossesse.
C'est évident.
Sauf cas exceptionnel, je veux dire, il y a des fois, c'est une complication qui peut survenir, des fois, le fibrome, il est en dehors de l'utérus et un peu comme appendu, ce qu'on appelle pédiculé. C'est-à-dire, il a un petit bout qui sort comme il est pendu, je dirais. Et des fois, ces fibromes pédiculés peuvent se tordre. Et là, ça va donner une douleur extrême et urgente qu'on va aller opérer parce que c'est-à-dire que ça qui soulage. Mais encore une fois, c'est exceptionnel. Mais juste par rapport à l'association fibrome et grossesse, c'est wait and see. Souvent, tout se passe bien. La même chose par fibrome et infertilité. Quand vous avez des gens qui sont infertiles, qui n'arrivent pas à tomber enceinte après un an de rapport non protégé et qui a un petit fibrome, quand les fibromes sont dans la cavité, quand ils sont gros, ils peuvent entraîner une infertilité. D'accord? Mais je ne peux pas garantir que c'est ça. Maintenant, la chirurgie du fibrome, est-ce qu'elle ne va pas aussi abîmer les trompes? Est-ce qu'elle ne va pas? Je pose la question. Et donc, c'est un grand challenge, une grande discussion, en fonction de chaque cas est un cas, de faut-il opérer ou ne faut-il pas opérer? Vous voyez?
Très bien. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Hicham El Abbès Tahagi. C'était, je pense, complet. Retrouvez en tout cas ce numéro aussi en podcast sur notre application Lux Radio.